Il y a un décalage entre ce qui est dénommé terroriste, et qui a plusieurs niveaux, même si la loi, comme tu le disais, peut finalement à peu près tout englober. On le voit, et enfin quelque part, heureusement, après j'ai envie de dire, c'est-à-dire que les conséquences judiciaires, par exemple, pour les gens que donc t'expliques que ce soit l'affaire de Tarnac ou ceux désignés dans la mouvance anarcho-autonome, je veux dire, avec le même mandat de dépôt, avec les mêmes chefs d'inculpation, des gens qui seraient soupçonnés d'appartenir à une mouvance, que ce soit islamiste, mais aussi corse ou basque, ils sortent pas au bout de 2 mois de prison, quoi, en préventive, ils sortent pas au bout de 6 mois. Enfin, je veux dire, on voit que malgré le discours, en pratique, il y a quand même encore un décalage, comme tu dis, peut-être une pratique judiciaire qui ne suit pas non plus complètement l'idéologie. Enfin, voilà, ça c'est important effectivement de le garder en tête, quoi. Et après, non, c'était une petite chose, je pense que sur le procès de l'intention, procès des objectifs qui prêtent aux personnes qui sont arrêtées. Je pense même que ça va encore un petit peu plus loin, parce que par exemple, pour un exemple que malheureusement je connais un peu plus, la mouvance anarcho-autonome, ça va même plus loin que prêter une intention à une personne qu'ils vont arrêter dans un contexte donné. C'est-à-dire qu'ils créent une mouvance, donc ils lui donnent un nom, ils lui donnent un mot d'ordre, donc ce serait son idéologie, pardon, serait de s'attaquer à l'appareil d'État et en gros à l'économie capitaliste, au système capitaliste. Ils lui donnent un mode de par lequel elle pourrait s'organiser, un type d'action auquel elle pourrait participer. Tout ça est défini donc de manière complètement policière. Et à partir de là, des personnes qui sont arrêtées et soupçonnées d'appartenir à cette mouvance, eh ben on leur prête tout ça. On leur prête ses idées, on leur prête ses pratiques, on leur prête ce mode par lequel elle pourrait être organisée. Et donc, tout ça a des conséquences judiciaires, parce que donc les personnes arrêtées, donc soupçonnées d'appartenir à cette mouvance qualifiée comme terroriste, vont rentrer sous cette juridiction, alors que tout ça est un peu une logique de l'État qui s'auto-entretient, quoi. Disons qu'ils ont des hypothèses au départ, de dire voilà, cette mouvance a tel objectif, voilà, une sorte de réseau pré-terroriste. Et leurs hypothèses, vu qu'après ils n'ont pas grand-chose pour les vérifier, n'empêche qu'en attendant, elles ont des conséquences judiciaires pour les personnes qui sont concernées.
Tout à fait. Oui. Ils cherchent à donner de la chair à leur propre fantasme. Alors, c'est pas pour leur trouver des excuses, mais il faut reconnaître que c'est pas toujours simple, y compris pour nous-mêmes, de nous y retrouver dans les bandes, les raïas, les groupes, les milieux qui constituent nos milieux où nous-mêmes on évolue. On s'y retrouve pas très bien. T'imagines quelqu'un qui est pas dedans et à qui on dit voilà, tu vas me faire un organigramme de la mouvance anarchiste en France. Et oh là là. Alors, ils raisonnent avec les catégories qu'ils ont. Qui sont le parti, la conspiration, et donc ils supposent des liens qui en réalité n'existent pas ou qui sont extrêmement lâches entre des tas de gens sur tous les coins du territoire, ce qui fait que aujourd'hui toutes les poursuites concernant une soi-disant une prétendue plutôt mouvance anarcho-autonome sont centralisées à Paris. Ce qui, si tu veux, par leur méthode même, ils essayent de donner de la réalité, de la consistance à ce qui est un fantasme. C'est-à-dire, si tu ouvres un dossier uniquement à Paris, où tu mets tout ce qui concerne la mouvance anarcho-autonome, ça peut être un graffiti à Besançon ou un pauvre cocktail qui a pas éclaté à Lille, tu vois. Du coup, tu dis, voilà, c'est les mêmes, ils se connaissent, ils voyagent, ils se retrouvent dans des squats. Et ils ont comme ça une vision qui était encore donnée là tout récemment, donc depuis l'apparition du bouquin, par un monsieur qui s'appelle Loïc Garnier, qui dirige depuis peu l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, qui est un des innombrables organismes qui s'occupe de tout ça, donc l'UCLAT en abréviation. Et il dit, alors il veut pas parler de Tarnac, parce qu'il y a une instruction en cours, ce qui est un moyen commode d'éviter la question. Cette mouvance de l'ultra-gauche, alors lui il dit plus anarcho-autonome, se radicalise depuis quelques années. Nous estimons qu'il ne faut pas lâcher prise pour pouvoir détecter à temps une dérive sectaire. Dérive sectaire, alors ça c'est plus récent ça, comme arrivée de vocabulaire dans l'antiterrorisme. C'est les sectes, c'est les gens parce que ils vivent repliés sur eux. ils parlent pas à des gens qui sont pas d'accord avec eux, donc ils deviennent un peu fous, et là, on sait pas ce qu'ils peuvent faire. Je pense que ça annonce un de ces quatre. On va relier le truc avec la question des mineurs et de l'absentéisme scolaire, et on va aller voir si dans les squats il y a des enfants qui devraient pas être scolarisés, qui par hasard le seront pas, parce que ça permettrait de renforcer l'hypothèse de la dérive sectaire. Absolument. Oui. Tu vois, à propos des squats, là, je lis un article de Rue 89. Par exemple, avec le développement des squats où l'on s'enferme dans un schéma, on s'isole du monde réel, on n'a plus d'échange intellectuel avec des gens ayant une autre opinion politique. Bon, alors, les gens qui ont très mauvais esprit peuvent dire « Oh, bah, c'est pas complètement dépourvu de toute base. Il peut arriver que dans tel squat, effectivement, on s'enferme un petit peu.
Bon, » Enfin, guère plus que devant sa télé chez soi, en sortant de chez Carrefour, après avoir été bossé.
Et guère plus qu'à l'UMP ou à l'UCLAT. Même, je serais curieux de savoir dans cette organisation, dans cette unité de coordination de la lutte antiterroriste, s'ils parlent souvent avec des gens et qui ne sont pas d'accord politiquement, sauf quand ils les coincent pour 96 heures pour une enquête.
Et donc, juste un petit mot, si on veut aborder quand même le reste, sur le travail de la DST. Qui est, effectivement, je me rappelle, j'étais au procès à ce moment-là. Quand ceux qui sont revenus de Guantanamo ont dit que des mecs de la DST étaient venus les interroger là-bas, fermement, comme on dit. Et que, donc, du coup, ces interrogatoires-là n'ont finalement pas été pris en ligne de compte parce que déclarés illégaux, tout simplement.
Voilà, il y a la DST a subi là un petit revers, parce que la Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 24 février 2009 et a relaxé 50 anciens détenus français passés par Guantanamo, que la DST était venue interroger sur place à Guantanamo. Évidemment, hors contrôle judiciaire, même si on sait que c'est une garantie très relative, et sans présence d'un avocat. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun à la mode Guantanamo, quoi. Et eux, ça leur a posé aucune espèce de problème, hein, aux enquêteurs de la DST.
Chez eux, là.
Voilà. Ils pensent même que, sans doute, les Américains sont un peu en avance sur nous, que on pourrait, on serait bien inspiré d'en tenir compte. Et là, la Cour d'appel de Paris a sanctionné en disant que, eh ben non, ça avait été, ces aveux avaient été obtenus, je cite, de manière déloyale et en violation des droits de la défense. Or, il faut savoir que la DST n'a pas connu que des revers, ça c'en est un petit, mais la création de la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur, qui est une fusion DST-Renseignements Généraux, c'est fait manifestement au profit de la DST. C'est-à-dire, c'est la DST qui est gagnante dans là, d'où des rancœurs et des grincements de dents du côté des renseignements généraux. Mais donc, le pouvoir, lui, n'a pas du tout désavoué la DST. Au contraire, même s'il y a eu ce petit désaveu judiciaire.
Il se fait tard, très tard, bientôt le soleil, et Mohan n'a pas sommeil, il veille les yeux vides, sur le carreau aride, au mur de sa minuscule cellule. Une cigarette mal roulée se consume et tremble au bout de ses doigts exsangues qui semblent mourir le long de sa jambe. Mohan ne bronche pas, les mots sont froids, leur écho se cogne parois de cette cage qu'il partage avec un rayon de lune voilé et quelques rats pressés au pas vif et feutré. Par terre, en miroir, s'est éparpillé en mille fragments de verre parmi deux, trois bibelots, des vêtements, une radio et des livres coincés sous un meuble renversé. Une sale odeur au Roland, d'urine et d'excréments flâne et se pavane depuis que les chiottes sont tombées en panne. La tête dans une volute de fumée diaphane, Moha accroupi au pied du lit serre dans sa main une photo jaunie, une vieille photo où un grand homme droit a mis sa plus belle chéchia. Un grand homme droit que tout le monde fête à son retour de la Mecque, mais un grand homme droit qui vient de partir dans un ultime soupir. Un peu de sel sur une plaie ouverte. Un peu de sel sur une plaie ouverte. promenade à l'écart des camarades de misère habituelle. Et selon le rituel, mon chat tourne et tourne, puis s'enroule en boule dans des mots qu'il traîne, chuchoté à lui-même. Des mots qui m'almènent, qui se referment et qui drainent de lourdes larmes blanches, très vite essuyées d'un revers de manche. Il avait tant à lui dire, tant de choses à finir, rattraper le pire, voir s'esquisser un sourire sur son visage où l'âge avait creusé les entailles d'une trop longue bataille sur des chantiers de ferraille. Et Moha s'injurie, et Moha se maudit en tirant la courte corde de sa chienne de vie. Sans grandes œuvres, ponctuées de basses manœuvres, comme un mauvais fleuve à la sortie de l'échec, on lui a vite appris à conjuguer du bec sur des pupitres en bois sec. Les blocs de Nanterre ont des mâchoires de fer et le cachot tire la chasse en effaçant les traces. Un coup de sifflet ramène tout le monde à l'entrée, on se presse encore sans la force d'un effort à l'exacte verticale des miradors. À l'exacte verticale des miradors. Un peu de sel sur une plaie ouverte. 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 Se fait tard, très tard, bientôt le soleil, Moha dort dans lourd sommeil. Au matin, il se rendra à l'atelier, souder des pièces d'acier, de quoi payer le miel de sa gamelle. Et puis, si la fatigue se tait, il relira cette lettre froissée qu'il n'a pas pu envoyer et qui semble saigner sous les toits d'ardoise du pénitencier.
Dans le deuxième chapitre, tu abordes donc largement tout ce qui est du domaine de l'Europe, hein, des décisions cadres qu'ont présidé donc à l'ensemble, puisque la France finalement n'était pas la première à appliquer tout ça. Il y a des pays qui étaient un peu plus en avance que la France. La France a comblé son retard, on dirait. Et un des pivots centraux de cette législation, c'est bien entendu le mandat d'arrêt européen qui leur laisse une latitude sans commune mesure pour arrêter comme ils veulent, qui ils veulent, où ils veulent.
Oui, la législation européenne, ça a deux conséquences. D'abord, une unification, parce qu'effectivement, en 86, la France avait dans... En somme, picoré dans les législations de divers pays européens, ce qui l'intéressait, donc augmentation de la garde à vue, toutes les réductions possibles des droits de la personne. La législation européenne permet d'unifier tout ça et de manière autoritaire, c'est-à-dire la décision se prend au niveau européen et ensuite les pays, avec une toute petite marge de manœuvre, sont tenus. Les gouvernements des différents États de l'Union sont tenus de mettre leur propre législation en harmonisation avec les décisions cadres prises au niveau de l'Europe. Et c'est ce qui s'est passé après le 11 septembre. Ça a été une occasion, hein. Ils en auraient trouvé une autre. Mais très très vite après les attentats du 11 septembre, le Conseil de l'Union européenne a publié un projet de décision cadre qui a ensuite été adopté, où la définition du terrorisme, on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont des actes qui ont pour but de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. C'est difficile d'envisager plus ouais, vaste,
plus large.
Plus large. Donc c'est tout et n'importe quoi. Il y a aussi gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, économiques ou sociales d'un pays ou une organisation internationale. C'est-à-dire, à chaque fois, ils essayent de rien oublier, quoi. Ils disent oui, mais s'ils font un truc qui vise pas, l'État français, mais qui est en France et qui vise l'ONU, par exemple, ça marche aussi. Organisation internationale, pof. Tu cherches à déstabiliser, toute action politique cherche évidemment à déstabiliser une autorité. Tu as parlé du mandat d'arrêt européen. Ça, c'est très important parce que c'est un des éléments, un des outils de la politique antiterroriste et de la répression judiciaire en général, hein, bien
ah ouais,
entendu.
Ça on peut le dire, ouais.
Bien évidemment, à l'échelle européenne. En gros, ça fonctionne comment ? Ça permet à n'importe quel magistrat de n'importe quel pays de l'Union européenne de faire arrêter directement n'importe quel citoyen de n'importe quel autre. Alors, pour donner un exemple, on se souvient des manifestations à Gênes, par exemple. Un manifestant français, parisien, qui serait passé par Gênes, qu'on dit qu'on a repéré sur je sais pas quoi, un enregistrement vidéo, machin, un juge de Gênes peut le faire arrêter à Paris sans que la France puisse s'opposer à son arrestation sous prétexte que c'est un ressortissant français. Donc c'est le côté, nous reconnaissons le statut démocratique des législations des autres pays de l'Union, et donc on ne peut pas dire, ah non, ça c'est, il est à nous celui-là, on se le garde.
Ah ben ça, eux ils condamnent la solidarité quand elle est effective, par exemple quand des gens hébergent chez eux des sans-papiers, etc. Mais en revanche, eux ils restent très très solidaires, les États restent très très solidaires entre eux, quand il s'agit évidemment de la répression.
Ça a toujours été un peu vrai, mais ça l'est de plus en plus maintenant. Les flics, les patrons et les gouvernements pratiquent l'internationalisme de manière souvent plus efficace
classe,
que nous.
Une classe unie, hein, on va
ouais,
dire,
absolument.
Hein, avec les outils, outils qu'il faut. Hein.
Ils expliquent par ailleurs qu'il n'y a plus de classe, mais eux-mêmes réalisent à l'échelle internationale effectivement l'unification de la bourgeoisie. Ça fonctionne assez bien. Alors, évidemment, ça a visé tout de suite les gens qui étaient dans les dossiers en cours, c'est-à-dire essentiellement les Basques, en première ligne. Mais ça peut concerner n'importe qui, n'importe quand.
Ah oui, on a des exemples précis. C'est ça qui est... c'est ce que je te disais, mais on va juste qu'il manquait peut-être dans l'ouvrage la chose qui manquait, à mon avis, c'était une petite ligne de fuite vers la législation qui est la même. Contre ce qu'ils appellent la grande criminalité ou la criminalité organisée, la loi Perben 2, qui précède même à ce moment-là l'ensemble des mesures législatives, etc., qui sont reprises pour l'antiterrorisme. Ils se tirent la bourre, quoi. Tu vois, ces deux législations-là se tirent la bourre pour aller évidemment vers le plus de contrôle possible. Et donc bien évidemment que le mandat européen il a servi, il sert et il servira encore à aller chercher des délits qu'ils appellent de droit commun, ouais, des délits
mandat européen introduit dans la législation française au prix quand même d'une révision constitutionnelle, ce qui n'est pas tout à fait rien, hein, donc ils y tenaient beaucoup, et c'est une bonne occasion de le mentionner, voté par la gauche.
Le dernier chapitre aborde donc l'étranger et les jeunes, ça c'est deux sujets dont nous parlons beaucoup. Beaucoup.
Oui, bien sûr.
Alors peut-être on pourrait commencer par cette opposition, cette fausse opposition de la gauche, qui se manifeste de plusieurs façons. Dans ton livre, tu rappelles qu'effectivement en 86, il y avait eu des voix qui s'étaient élevées quand même,
oui, oui.
Hein, contre le tout et n'importe quoi de cette espèce de premier gros déballage sur l'antiterrorisme. On le rappelle aussi souvent, nous, pour ce qui est construction de tôles, etc. En 86, il y avait des voix qui s'élevaient contre ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Et aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus rien, sauf le truc de Tarnac, l'histoire Tarnac, et là, effectivement, qui a réveillé un tas de bonnes consciences. Hein. Mmh. Là, on n'incrimine absolument pas les inculpés, mais bien, comme tu le fais toi, le discours des comités de certains comités de soutien et de l'appui de la presse nationale, enfin, etc., et oui. des partis politiques, on peut y aller, hein, etc. Alors que un an auparavant, il y avait déjà plusieurs personnes qui avaient été interpellées dans le cadre de la même législation, oui. Cette fois-ci en relation avec des actions ou des manifestations menées en solidarité avec les sans-papiers retenus en centre de rétention, hein. Et que ces gens-là sont toujours en instruction. L'instruction n'est pas encore close, les dates de procès ne sont pas encore connues, et ça va donc faire 2 ans de, à la fois de détention. Enfin, ils sont tous dehors maintenant, hein, mais il y a eu quand même pas mal de mois de détention pour certains d'entre eux, et pour les autres du contrôle judiciaire qui continue. Et cette histoire-là, elle est passée à la trappe, mais alors de ce point de vue-là, complètement. Hein.
Oui, il y a deux niveaux. Là aussi, j'ai pris 86 comme point de repère. Il y a la gauche parlementaire. Elle est totalement inefficace. Tantôt, elle vote carrément les textes les plus répressifs, comme le mandat d'arrêt européen. Tantôt, elle s'abstient. Il y a des fois, le Parti communiste s'abstient, ce qui revient à laisser passer les textes en saluant, tu vois. Tantôt, elle vote contre. De toute façon, ça ne change rien. Et puis, il y a la gauche, que j'appellerais pour simplifier, la gauche associative. Et là, depuis 86, on voit que ça s'est rétréci comme peau de chagrin, pour des raisons assez claires, d'ailleurs, étant donné que ces gens n'ont pas d'analyse ni politique, ni de classe, de l'idéologie antiterroriste, ils n'ont pas d'objection. Ils sont obligés de dire, bon, bien entendu, on est d'accord sur la lutte contre le terrorisme. Ce qui revient, c'est une défaite idéologique totale. Mais on est contre ceci, contre cela. Peut-être que c'est pas la peine d'encore augmenter la durée de la garde à vue pour la 15e fois en 10 ans. Et donc, leur argumentation s'épuise, se réduit, et se réduit en général à une protestation morale maintenant. Tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'analyse politique, il y a uniquement oh ben quand même c'est pas très bien, c'est pas très humanitaire, ça. Ils se retrouvent donc complètement isolés, de plus en plus isolés dans leur propre camp. Et quand tu fais la comparaison entre 86 et 2006 et les dernières et les toutes dernières années, eh ben t'as de moins en moins d'organisations. T'as quelques organisations. Alors t'as le syndicat des avocats de France, un peu la Ligue des droits de l'homme, 2 ou 3 personnalités. C'est une des spécialisées de Badinter. Mais Badinter, il a approuvé le mandat d'arrêt européen.
Il a tout approuvé, celui-là.
Donc, il y a même plus, ça c'est en pleine déliquescence, il y a même plus un front aussi minoritaire soit-il de gens qui incarneraient la protestation démocratique. Ouais. Ils sont complètement compromis et au niveau législatif et au niveau associatif. En tout cas, ça c'est le débat que j'ai eu par, enfin pas directement, mais par mon site notamment interposé avec l'éditeur Azan, qui a commencé par faire des grandes protestations complètement droit de l'homiste, et qui ensuite enfin, maintenant dit ah non mais ça c'était pour rire,
c'était de la stratégie,
c'était de la stratégie.
Nous on n'est pas stratège, non.
Et ça c'est pas possible, parce que c'est pas parce que on n'a pas le droit d'avoir des contradictions. C'est que si le lundi tu dis une chose et le mardi une autre, comment est-ce que les gens savent quel jour il faut te croire? Et puis peut-être que t'as été plus convaincant le lundi quand t'étais démocrate que le mardi quand t'es soi-disant insurrectionnel, tu vois. Donc faut savoir ce qu'on veut. Et en tout cas, moi, ce que je veux, c'est pas renforcer la démocratie, parce que la démocratie comme système politique, c'est-à-dire comme système de régulation politique du capitalisme, c'est aujourd'hui un système qui utilise la terrorisation, y compris pour sa gestion. Notamment pour la question de l'immigration, c'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est un système de gestion. D'un côté, ils régularisent des milliers de sans-papiers, pas nécessairement ceux qu'ils réclament d'ailleurs collectivement, et d'un autre côté, ils utilisent les expulsions, les rafles comme moyen d'intimidation et de gestion économique.